capacité, très peu, contrairement à les mineurs ou à l'Italie. Donc c'est des gens qui n'ont pas l'habitude de ça. Donc quand les Romains arrivent après la conquête, ils mettent ce système en place. Ils affirment plein de choses, ils confient des tâches obligatoires. Mais ça marche tellement mal qu'ils saisissent les biens de ces gens pour se rembourser. Et on atteint un tel point qu'en 68 après Jésus-Christ, il y a un premier édit d'un autre préfet qui dit c'est plus possible, il faut rétablir la confiance commune parce que les gens n'osent plus faire de contrat parce qu'ils pensent que l'État va passer derrière pour tout saisir. Donc au départ, c'est fait pour indiquer aux individus privés si l'État a un droit sur les biens de ces gens, pour qu'on puisse faire des contrats avec les gens qui sont en dehors de ce système. Donc au départ, ce n'est pas fait pour faciliter le crédit, mais ça va avoir pour conséquence de faciliter le crédit. Ce qui intéresse l'État, c'est qu'il puisse continuer son système d'affermage de tâches et de contrats sans que ça perturbe les contrats privés à côté. Parce que ça ne marchait pas du tout, il fallait faire quelque chose, il fallait publier qui était engagé. Donc c'est pour ça que c'est mis en place. Mais c'est un dispositif aussi lourd et pas... L'administration romaine ne le met pas en place pour les transactions privées. Il le met d'abord pour que son système d'administration de la province continue à marcher.
Donc, si je comprends bien, ça veut dire qu'il n'y a pas une demande sociale particulière aller vers des transactions de marché plus abstraites, plus...
On ne la connaît pas.
Plus haut niveau.
Pour répondre à Laurence Rappel, l'histoire se fait avec des documents. L'histoire ne consiste pas à imaginer qu'il pourrait y avoir d'autres documents que nous n'avons pas. Il faut bien faire avec ce qu'on a. Alors, par exemple, la demande sociale, s'il y en a une, on ne la connaît pas.
Mais pour poursuivre un instant, j'étais un peu surpris par M. Melun, vos dernières remarques en disant. Le registre de bannissement pour dette a été finalement l'équivalent de ce que François Laurencel disait sur l'apparition de cette bibliothèque du Zaché. En réalité, j'ai l'impression que c'est deux choses totalement différentes.
François, c'est complètement...
Non, parce que je cherchais des... Parce que moi, ma période, c'est plutôt la semaine dernière. La semaine dernière, la directive sur le crédit conso a été adoptée par le Parlement européen. Elle subit des critiques extrêmement fondées, à mon avis. Je suis en train d'écrire un papier là-dessus que je vous enverrai dès qu'il sera terminé. Mais, l'un des points de cette directive, c'est précisément savoir s'il faut avoir en Europe un fichier positif ou un fichier négatif ou pas de fichier du tout. Et ça, c'est pas une demande sociale en l'occurrence, mais c'est une demande de la profession des prêteurs, banquiers et sociétés financières spécialisées. La différence entre les deux étant soit vous inscrivez comme le bannissement pour dette, soit vous inscrivez des gens qui ont eu des incidents de crédit, dans ce cas-là, les prêteurs savent qu'il ne faut pas leur prêter, soit vous inscrivez les dettes, les crédits que prennent les gens auprès des institutions, les institutions mutualisent, et après on sait exactement quel est l'état des dettes des citoyens, etc. Et la Commission européenne s'est bien gardée de prendre des décisions là-dessus, sous la pression des prêteurs, d'ailleurs, sous la pression des prêteurs, qui, avec un fichier, ça serait l'invasion par les anglo-saxons de nos marchés domestiques, etc. Ça serait un enjeu tout à fait considérable, actuel, et tout à fait considérable sur cette affaire. Donc c'est pour ça que je posais cette question sur la demande sociale. Est-ce que c'est la sécurité des prêteurs qui demande aux autorités d'arbitrer et d'améliorer l'information, et donc qui, d'un prêt marché très fondé sur la confiance interpersonnelle, etc., on passera à un marché beaucoup plus étendu, dépersonnalisé, plus abstrait, avec des montants plus hauts, avec un système de garantie beaucoup plus abstrait également, etc.
Non, la bibliothèque de l'Église, c'est vraiment l'intérêt qui se trouve avoir des conséquences, mais c'est quand même pensé pour restaurer la confiance pour les
prêteurs.
Mais à Rome, on a quelque chose qui ressemble au banni pour dette. Il y a une colonne sur le forum où c'est les prêteurs qui le font. Il affiche les noms des
intervenants.
Non, c'est vrai. Justement, pour écarter les gens. Mais là, c'est les prêteurs qui s'organisent eux-mêmes. Et c'est une initiative privée,
c'est pas la même. Mais c'est pas mal, parce que
Oui, ben c'est là que se traitent les grandes affaires d'argent. Hein. Les gens savent que pour emprunter, il faut venir à cet endroit-là, et à cet endroit-là, il y a une colonne, il y a des noms des gens qui peuvent
écarter. Mais on peut effacer, évidemment. Comme sur les FICP, on peut effacer.
C'est dur.
Oui, c'est dur.
Et là, c'est les prêteurs qui s'organisent. Les gros prêteurs.
Les gros prêteurs. La seconde question, effectivement, en fait, vous me donnez, c'est. J'ai l'impression que dans tout ce que vous dites, il n'y a aucune différence entre la différence aujourd'hui devenue très traditionnelle dans la banque, entre pré-conso et pré-pro. C'est-à-dire qu'on ne connaît pas l'objet de la demande. Enfin, si, quand il s'agit de faire un canal d'irrigation, ça y est, on a compris. D'ailleurs, on ne comprend pas pourquoi ils se font avoir, finalement, parce qu'un canal d'irrigation, ça veut dire qu'on a des projets, ça veut dire qu'on veut augmenter la productivité, ça veut dire qu'on va gagner de l'argent. Et finalement, ils se font avoir.
Oui, dans ce cas très précis, je pense au fait qu'ils ont essayé, en même temps, ils ont racheté les droits seigneuriaux et ça a vraiment beaucoup embêté la commune. C'est vraiment une faillite collective qui se passe, qu'on voit assez souvent hein, dans ces communes qui ont des grosses difficultés financières qui sont très, très fragiles, hein, parce qu'il y a aussi une fiscalité d'État en somme de la commune urbaine. Et donc là, visiblement, ils ont mal calculé leurs emprunts et le temps que le canal devienne rentable. Non, c'était une bonne opération, mais ça veut dire pas tout à fait. Et qu'on a une différence entre, si je comprends bien ce que vous voulez dire, en fait, l'historiographie du crédit dans l'Italie communale, est entièrement dominée par l'idée que c'est un crédit de détresse, même pas de consommation, de détresse. Hein, c'est-à-dire, tout à l'heure, j'ai parlé des paysans qui achètent la semence, c'est nécessaire. Hein, c'est-à-dire que, et ça, on le voit très nettement à une période, à la fin, une période de difficulté à Crève autour de 1300, donc des mauvaises récoltes, etc. Et là, on voit la propriété paysanne, par exemple, qui vendent leurs récoltes sur pied, mais vraiment qui ça remplit des registres de notaires entiers, en Toscane en particulier. La propriété paysanne le suit, c'est-à-dire qu'on peut suivre, dans certains cas, si elle, par exemple, l'accroissement d'année en année de la propriété foncière des citadins qui rachètent à vil prix donc on voit ça dans d'autres endroits aussi, mais. Et simplement, l'historiographie est entièrement dominée par ce phénomène qui est extrêmement impressionnant aussi. Hein. Je veux dire, j'ai aussi écrit des choses, un article sur la prolétarisation de la prison de Lombarde, des choses comme ça. Hein. Donc c'est vrai, hein. C'est vrai, c'est très impressionnant. C'est le naufrage d'une société de petits propriétaires paysans qui disparaissent, j'y crois encore très fort. Simplement, ça dissimule complètement les emprunts pour investissement, et ça, on a beaucoup de mal à voir à la fois dans la documentation, et puis à le concrétiser dans l'historiographie. Donc, on écrit presque jamais, on n'a presque rien sur cet aspect-là, alors qu'il y a sûrement comme cet emprunt-là, ben, il n'a pas marché, mais enfin, c'est un emprunt d'investissement, c'est des paysans qui construisent leur avenir économique, quand même. Mm-hmm. Et ça, on le voit pas, c'est normal, je laisse.
Pour l'Antiquité, ça n'a jamais indiqué. La différence n'a jamais indiqué, elle n'est jamais pensée. Il y a d'autres différences, je vois celle-là.
Mais on ne peut pas avoir un indicateur de l'usage du prêt, par exemple avec la saisonnalité des prêts, ça nous aura du sens.
C'est difficile.
Vos données, elles ont des données avec des dates très précises
oui.
Dans l'année.
Et pour l'instant, on ne voit rien qui. À part pour les prêts céréales qui sont prêts toujours au semail, toujours en train de se mettre très facile. Autrement, non, c'est indifférent.
Et pareil pour les prêts de défaite, les dépôts. C'est à n'importe quelle période de l'année. La différence entre prêts de défaite et prêts d'investissement, ils sont à n'importe quelle période de l'année.
Ben non, les frais de détresse, c'est toujours ouvert, c'est au printemps, ça part une périodicité très nette. Hein, on vend les récoltes sur pied au mois de mars, avril. Donc, on peut faire cette. Bon, je sais pas. aussi nette que ça, mais les investissements, ça pas vraiment, on pourrait l'étudier, ce sera un beau sujet. Ça peut tellement étudier.
Le silence là-dessus, il est lié à l'historiographie par rapport à cette période ou il est lié aux sources? Parce qu'en même temps, on les voit dans les sources, là, justement.
Oui, mais je crois...
Est-ce que c'est juste une manière de...
Ça, ici, c'est pas trop... c'est surtout, je crois, que cette présence, cette omniprésence de la détresse paysanne et des transferts de propriété qu'on voit partout, hein, dans les sources. Dès qu'on a des sources de personnel, donc une source très intéressante, plus tardive, et surtout de la Toscane, c'est les livres de raison, donc les livres, les citadins, les marchands, je sais pas, notent leurs affaires, surtout, pas leurs affaires de marchands, mais leurs affaires privées, hein. Et ces livres de raison, c'est le matériau type qu'on a mis pour montrer comment la propriété citadine a été absorbée par les citadins, terre après terre, la suite de près, etc. Et donc ces deux phénomènes dans l'historiographie de l'Italie communale, mais je crois aussi dans la réalité, le crédit rural et le marché de la terre, orientés vers l'appropriation citadine, sont deux phénomènes étroitement liés. On a beaucoup de mal à réfléchir sur le crédit rural sans prendre en compte.
Ça fait un petit différentiel quand même. C'est-à-dire que ce que vous décrivez dans tous vos exemples, s'il y a une tendance lourde, il doit y en avoir une, à ce que les crédits consentis par la ville à la campagne soient consentis avec le plus élevé, avec une meilleure conscience des taux qui ne sont pas gérés par taux, qui sont gérés par temporalité, qui sont gérés par tout un tas d'autres moyens. Et que par ailleurs, les crédits campagnards sont structurellement plus orientés vers des crédits oraux, voire gratuits, c'est-à-dire qu'une plus grande partie de l'activité n'est pas génératrice de profit. Si vous faites ça sur suffisamment long, et ça on voit plus tard, évidemment, on va y avoir des gagnants et des perdants. Les gens qui pratiquent un crédit qui rapporte plus, vous dépossédez ceux qui pratiquent un crédit qui rapporte moins.
Parce que j'ai cru pendant que je parle, vraiment, c'est pas si ça fait très scientifique de dire tout le temps des trucs que je crois. Mais c'est vrai que je sais plus à un certain point parce que voilà, l'impression de dire, c'est aussi, je crois que c'est aussi parce que je ne travaille plus vraiment là-dessus, depuis dans les archives. Hein, mais c'est aussi que les archives, tout à l'heure, disiez qu'on pouvait pas, les archives me disaient certaines choses, on ne pouvait pas parler des archives qu'on n'avait pas, mais oui.
Mais on peut poser des questions.
Mais voilà, mais ce que je fais là, maintenant, c'est poser des questions sur ce qu'on n'a pas. C'est-à-dire, est-ce qu'on en était non, je ne sais plus. Et donc, non, moi, ce que je pense, mais je ne suis pas sûr hein, du tout, c'est que j'ai l'impression que dans certaines communautés rurales réussissent à s'en tirer sans le crédit urbain. Mais c'est une position qui est très critiquée hein, par certains de mes collègues très savants, donc j'avance pour ce qu'elle vaut, en disant qu'elle est critiquée. En particulier, le crédit urbain qui veut gagner de l'argent va dans les endroits où on peut gagner de l'argent. Hein. C'est-à-dire que l'expropriation paysanne, c'est dans la plaine du pauvre, où tout rapporte énormément. Quand on va dans la montagne, les citadins, ils ne vont pas prêter de l'argent, puisque ça ne leur rapporte rien du tout. Hein. Donc la terre ne vaut rien. Et là, on se demande comment font les communautés. Là, on a l'impression qu'elles se débrouillent entre elles, sans bien mal. C'est-à-dire qu'il y a un crédit interne complètement différent à l'intérieur des communautés qui permet de vivoter à un niveau très, très faible qu'on entrevoit. Par exemple, on a une déclaration fiscale de 1235 Bologne, c'est la seule, hein, des environs de Bologne, dans l'Athéna, au bord de l'Athéna, où il y en a quelques communautés qui déclarent, mais vraiment tout, alors leur permet de dire tous les prêts, donc c'est des communautés paysannes assez pauvres, et cette fois-là, ils ont le droit d'inclure dans leur déclaration de revenus tous les emprunts, même sine carta. Alors, ils disent tout, mais alors c'est trois fois rien. Hein. J'ai emprunté un seau de blé au voisin des châtaignes. J'ai emprunté des châtaignes au voisin, enfin, vraiment des trucs ridicules. Hein.